Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre artiste, dont le père est décédé fin 1874, a rallié le groupe des indépendants. Il vient de participer à la manifestation de 76 avec quelques tableaux étonnants. Retournons avec Palette et Chevalet, au 11 rue Le Pelletier. Bienvenue chez Gustave Caillebotte. À l'occasion de la seconde exposition des impressionnistes, le critique Louis-Edmond Duranty publie une brochure, La Nouvelle Peinture. Il y décrit les différents styles s'inspirant de ceux de Degas et Caillebotte et cette innovante manière de peindre.
Adieu le corps humain traité comme un vase au point de vue du galbe décoratif. Adieu l'uniforme monotonie de la charpente de l'écorché saillant sous le nu. Ce qu'il nous faut, c'est la note spéciale de l'individu moderne dans son vêtement au milieu de ses habitudes sociales, chez lui ou dans la rue.
Évidemment, nous pensons au tableau Les raboteurs de parquet que Gustave Caillebotte vient d'exposer à cette seconde manifestation et dont nous avons parlé dans le précédent épisode. Comme déjà cité, Gustave, mécène, peintre, va souvent apporter une aide inestimable à ses amis impressionnistes, dont Monet.
Voyage en terre de couleurs, les impressionnistes.
En cet été 76, Claude Monet est invité chez Ernest Houchédé, amateur d'art, pour y peindre des panneaux décoratifs dédiés au salon du château de Rotembourg à Montgeron, non loin d'hier. Aussi, Claude Monet en profite pour rendre visite à Gustave. Une passion commune va les rapprocher, le jardinage et la botanique. À l'automne, Monet reviendra au bord de l'Yerre. Il y peindra, d'une toute autre façon, la rivière, à l'instar de Caillebotte. Lierre près de Montgeron, vue de Lierre, saule au bord de Lierre. Gustave, lui, en profite pour immortaliser le domaine familial, portrait à la campagne, musée Baron Gérard à Bayeux. Quand il ne peint pas, il s'adonne à un autre passe-temps, les sports nautiques.
Le nautisme.
En France, les sports nautiques furent lancés par les communautés britanniques du bord de Seine autour de 1830. Les cercles de voile sont très sélectifs jusque dans les années 70. À partir de cette date, va se démocratiser les courses d'aviron, les régates, le canotage, que ce soit à Argenteuil, Bougival ou Chatou. Le domaine d'hier possède plusieurs bateaux, dont un grand ver à fond plat dès son acquisition. Il existe aussi une embarcation remisée l'hiver dans une écurie. Une barque et son matériel sont rangés à l'abri, tandis qu'un canot de corvée est amarré au bord de l'Yerre. Gustave rame, canote l'été, sur des périssoires, canots, kayaks, avant de devenir régatier. La passion de Caillebotte pour les plaisirs nautiques, la navigation, va vite prendre un tour plus professionnel. Dès 1876, il adhère ainsi que son frère Martial au Cercle de la Voile de Paris, dont le siège est à Argenteuil. Il va encourager ainsi l'essor et la vulgarisation de cette activité. Il en deviendra le président en 1880. Devenu régatier, il remporte de nombreux prix en 79 sur son premier bateau à voile baptisé Iris.
Une véritable passion alors ?
Oh oui, bien plus que cela. Fou de vitesse et de ses bateaux qu'il veut améliorer, il dessine et construit ses modèles. Il rachète le chantier naval Luce en 1880. Il améliore sans cesse les performances de ses voiliers, dotés de coques aérodynamiques, de lest extérieur, de voiles en soie, grâce auxquelles il remporte de nombreux prix internationaux et gagne des médailles en or, argent et bronze. Vont sortir de ses mains Jack le voilier en 82, La Pioche, le dériveur en 85, Le Lézard en 91, Wurtzbief, voilier de 30 mètres carrés en 92, Daud en 93 et en 94, après son décès, paraîtra mignon. Il détient jusqu'à 32 bateaux, dont 14 voiliers de course. Entre 1880 et 93, il représente les plans de 22 voiliers. Son frère Martial poursuivra les courses de bateaux à voile jusqu'en 1900.
Dernière volonté.
À l'automne 76, le 1er ou 2 novembre, selon les sources, le décès soudain de son frère aîné, âgé alors de 26 ans, bouleverse profondément Gustave. Aussi, dès le 3 novembre, à l'âge de 28 ans, il rédige un premier testament, à mots, chez maître Albert Courtier. Il est en effet convaincu que l'on meurt jeune dans la famille.
Je donne à l'État les tableaux que je possède. Seulement, comme je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que les tableaux n'aillent ni dans un grenier, ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire qu'il s'écoule un certain temps avant l'exécution de cette clause, jusqu'à ce que le public, je ne dis pas comprenne, mais admette cette peinture. Ce temps peut être de 20 ans ou plus. En attendant, mon frère Martial, et à défaut un autre de mes héritiers, les conservera. Je prie Renoir d'être mon exécuteur testamentaire et de vouloir bien accepter un tableau qu'il choisira. Mes héritiers insisteront pour qu'il en prenne un important.
Par ailleurs, soucieux des manifestations des impressionnistes à venir, il écrit aussi.
Je désire qu'il soit pris sur ma succession la somme nécessaire pour faire en 1878, dans les meilleures conditions possibles, l'exposition des peintres dits intransigeants ou impressionnistes. Il m'est assez difficile d'évaluer aujourd'hui cette somme, elle peut s'élever à 30, 40 000 francs ou même plus. Les peintres qui figureront dans cette exposition sont Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley, Berthe Morisot. Je nomme cela sans exclure les autres.
Début 77, Claude Monet commence sa série de la gare Saint-Lazare. Caillebotte, en homme généreux, loue pour Monet des argentés l'atelier du 17 rue de Moncey. En fait, un deux pièces au rez-de-chaussée, pour 175 francs par trimestre. Il en paiera le loyer jusqu'en juillet 78. Bienfaisant, également envers le groupe impressionniste, il va organiser la troisième exposition d'avril 77, se chargeant de la location, de l'appartement du deuxième étage situé au 6 rue Le Pelletier, à côté de la galerie Durand-Ruel. Il planifie les invitations, les communiqués. Il suspend lui-même les tableaux, prête quelques toiles de sa collection, dont trois Pissarro, un Renoir, un Monet et trois pastels de Degas. Au printemps 77, le peintre Ludovic Piette et ami de Pissarro lui écrit
« J'ai appris avec plaisir que M. Caillebotte vous avait acheté des tableaux, ce qui vous donnait quelque temps pour vous retrouver. »
Gustave rassemble les différents clans du groupe, mais n'arrive pas à persuader Édouard Manet de s'associer à eux. Edgar Degas souhaite qu'il soit interdit d'exposer simultanément à l'exposition et au salon. Ce règlement sera source de querelles et l'une des causes de la dispersion du groupe, car certains préféreront le salon officiel.
L'exposition de 1877.
Pour la première fois, elle est appelée exposition impressionniste. 18 artistes y sont présents, avec 241 œuvres de Cal, Degas, Guillaumin, Monet, Lamy, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley entre autres, et Cézanne, dont c'est la seconde et dernière collaboration. Gustave Caillebotte y présente 6 tableaux, 3 vues urbaines, avec les peintres en bâtiment, rue de Paris temps de pluie, le pont de l'Europe, et Madame Martial Caillebotte, portrait à la campagne, en plus des 8 toiles prêtées de sa collection. Cette manifestation marque l'apogée du mouvement impressionniste. Marie Béraud raconte. L'élimination de certains exposants, présents les années précédentes, a rendu le groupe plus cohérent et plus expressif. Le public est au rendez-vous, ainsi que les critiques, bien sûr. Dans le sémaphore de Marseille, du 19 avril 77, Zola s'exclame.
« Enfin, je nommerai M. Caillebotte, un jeune peintre du plus beau courage et qui ne recule pas devant les sujets modernes grandeur nature. Sa rue de Paris, par un temps de pluie, montre des passants, surtout un monsieur et une dame au premier plan, qui sont d'une belle vérité, lorsque son talent se sera un peu assoupli encore, M. Caillebotte sera certainement un des plus hardis du groupe. »
Quant à Georges Rivière, il publie 4 tirages du journal d'art l'impressionniste pour cette troisième exposition, afin de défendre ses peintres avant-gardistes. Les sujets sont appuyés par les reproductions d'étoiles de ses amis. Le pont de l'Europe de Caillebotte est à l'honneur dans le numéro du 21 avril. Pour l'anecdote, les deux filles Rivière se marieront avec les fils de Cézanne et Renoir. Au sujet de Gustave, il écrit
le tableau des peintres en bâtiment a un côté satirique assez amusant. Ces ouvriers qui bourrent consciencieusement une pipe en contemplant le travail à faire ne manquent pas d'observation.
Caillebotte en profite pour acheter trois variantes de la gare Saint-Lazare de Monet et le célèbre bal du moulin de la Galette de Renoir, qui reçoit une critique plutôt favorable. Gustave est très proche de Renoir, puisqu'il en a fait son exécuteur testamentaire. Renoir le choisira comme parrain pour son premier fils Pierre en 1885. Caillebotte, mécène, altruiste, subventionne les expositions de ses amis. Georges Rivière reconnaît.
Caillebotte apportait au jeune groupe l'aide financière qui lui manquait. C'est grâce à ces relations que les impressionnistes purent en avril 1877 exposer rue Lepelletier dans des circonstances extrêmement favorables.
Retournons maintenant à l'exposition de 76, découvrir un tableau où Caillebotte a immortalisé ce frère René décédé.
Du côté du musée.
René est brossé avec sa mère en deuil dans une scène d'intérieur appelée « Déjeuner, collection privée ». Cette scène plutôt lugubre de tonalité sombre dépeint la tristesse d'un repas sans réjouissance, où chacun est muré dans son silence. La table foncée, brillante, est dressée de trois couverts, accompagnée de sa vaisselle en cristal, verres à pied, à eau et vin, carafes, porte-couteaux, compotiers de citron et d'orange. Tout est là, rappelant l'aisance financière de cette famille. D'ailleurs, une partie de cette vaisselle sera reprise dans la nature morte, verrerie et compotier de fruits, datée de 79. Ici, l'assiette du peintre, à demi coupée, le verre à moitié rempli au premier plan, invite le regard à glisser vers l'extrémité de la table où se tient la veuve. Cette dernière, impassible, se sert dans un plat tendu par Jean Dorel, le maître d'hôtel. Une fois encore, nous retrouvons la perspective plongeante toute personnelle de Caillebotte. Émile Porcheron, critique, s'en trouva surpris.
C'est le comble de l'impressionnisme. La table semble avoir au moins 12 mètres de long, le cadre coupe en deux l'assiette d'un des trois convives et les deux autres personnages, placés à l'extrémité du meuble, sont tellement éloignés qu'on ne les comprend plus.
Au musée de Bayeux, allons admirer Portrait à la campagne. À la différence de la réunion de famille de Frédéric Basile, où les personnages posent, les femmes ici sont absorbées par leurs travaux de couture et ignorent carrément le peintre. Instant de vérité, pris sur le vif. Par une chaude après-midi ensoleillée d'été, à l'ombre des orangers en caisse, la jeune cousine, Marie Caillebotte, pudique, en robe longue bleue, col montant et manches longues, brode avec sa mère Madame Charles Caillebotte à ses côtés. Assise sur un banc, se tient en face une amie, Madame U, sa broderie à la main. Un peu en retrait, Madame Martial Caillebotte, de noir vêtue, est assise en train de lire. Heureusement, notre œil est de suite attiré vers la ligne de fuite, nous menant au-delà de ces femmes figées, vers le fond du parc, au massif fleuri et ensoleillé. Ce tableau, présenté à la troisième exposition de 77, reçoit un jugement assez favorable. Un critique déclare
« Toute une famille, mère, fille, grand-mère, amis, cousins ou tapissant honnêtement auprès d'un pavillon blanc dont les fenêtres entr'ouvertes envoient des bouffées de parfums bourgeois. »
Découvrons maintenant Portrait de Madame Martial Caillebotte, collection privée. Habillée de noir, veuve, Madame Caillebotte est absorbée par ses travaux d'aiguille, tête baissée, sans un regard vers le spectateur. Elle est assise dans un fauteuil devant la cheminée. Les accoudoirs et la tenture rouge, ainsi que les dorures, apportent une note de couleur à cette composition plutôt austère. Philippe Burti écrit dans La République française du 25 avril 1977.
Une étude intelligente, serrée, sentie.
Voyage en terre de couleurs prend fin aujourd'hui sur la troisième exposition des impressionnistes. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur cette même antenne vers d'autres découvertes picturales.